Revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
Tiens, ce matin à la une, le 49-3.
Autrefois, le 49-3, c'était le symbole de la prédominance de l'exécutif. C'est aujourd'hui le symbole de sa faiblesse. Après le recours au 49-3, le gouvernement affaibli et isolé, titre Le Figaro. Pour l'opinion, Macron est affaibli et Borne menacé. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, ce 49-3, c'est un aveu d'échec. Pour la Dépêche, un passage en force. Quand le journal de Saône-et-Loire se demande si ce 49-3 va enflammer la France. Pour le Parisien aujourd'hui en France, le gouvernement joue la sécurité et les échos constatent un grand gâchis. Et Ouest France pose la question, et après, on ne sait pas. La réponse est peut-être à la une de Challenge qui titrait mercredi « Comment réparer la France ?» et s'interrogeait sur les conséquences d'une dissolution. La suite est entre les mains d'Emmanuel Macron, à en croire la Tribune ce matin, qui titre « Il est droit dans ses bottes ».
La situation politique française interpelle également la presse étrangère.
Le monde regarde le vieux pays incapable de se réformer. Pour le New York Times, le summum d'un bras de fer, c'était cette séquence avec la balance. Dans la balance, le programme politique de Macron. Le journal suisse Le Temps qualifie le 49-3 de bouton nucléaire parlementaire perçu comme une violence démocratique tolérée sur des textes budgétaires, mais beaucoup moins sur un texte aussi sensible et important pour les Français. Pour El País, en Espagne, l'usage du 49-3 est une déclaration d'impuissance qui pourrait embraser la rue et déclencher une motion de censure capable de faire tomber le gouvernement. Pas vraiment. Le New York Times observe aussi la réaction de la rue qui ne s'est pas fait attendre. Des manifestants ont commencé à se réunir place de la Concorde où l'histoire nous apprend que Louis XVI et Marie-Antoinette ont été décapités pendant la Révolution française.
Bah, ils savent un petit peu d'histoire française, c'est déjà pas mal dans la presse étrangère. David, dans les échos, Sarkozy et Hollande jouent au mistigri nucléaire.
François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient hier auditionnés par la commission parlementaire qui enquête sur le fiasco nucléaire français. Alors commençons par citer Nicolas Sarkozy qui s'est prêté au jeu des questions et qui a fait ses réponses. Le nucléaire, a déclaré l'ancien président, a fait l'objet d'une chasse aux sorcières digne du Moyen-Âge. Le candidat malheureux en 2012 a rappelé qu'il avait pris toute sa vie des décisions en faveur du nucléaire. Dans sa ligne de mire, Martine Aubry et Cécile Duflot qui en 2011 prévoyaient de faire passer le nucléaire de 75 à 50% du mix énergétique, en fermant 24 réacteurs. Hollande, auditionné ensuite, avance cet argument. Il y a eu Fukushima. Des pays qui nous sont proches, comme l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, sont sortis purement et simplement du nucléaire. Si je n'avais pas pris la décision de dire qu'à terme, il représenterait 50% du mix, le risque aurait été d'aller beaucoup plus loin, voire de l'abandonner. Et l'ex-président ajoute, la corrosion qui a mis à l'arrêt nombre de centrales ne résulte pas d'une défaillance à l'égard de la filière, mais d'un défaut de conception. En clair, ce sont les ingénieurs d'EDF qui ont failli pour l'ancien président. C'est le jeu du mistigri, on se refile la patate chaude et les échos de résumé. La commission a entendu autant de vérités que de grands témoins. Montebourg qui explique que l'avenir de la filière s'est joué sur un coin de table, dans un accord entre socialistes et écolos. Sarkozy, lui, se voit reprocher l'ouverture du marché à la concurrence par Hollande et son ex-ministre de l'écologie Delphine Batho. Manuel Valls a lui déclaré que pour fermer 24 réacteurs, il fallait une étude d'impact. Il n'y en avait pas. On a donc fermé Fessenheim. Une fermeture décidée sous Hollande, mais mise en œuvre par qui ? Par Elisabeth Borne, ministre de la Transition énergétique. De qui ? D'Emmanuel Macron. La palme de la franchise va tout de même à Nicolas Sarkozy, qui a eu le courage de déclarer de façon assez savoureuse ceci devant la commission, j'ouvre les guillemets. Le nucléaire est un sujet de président, mais ça ne veut pas dire que je comprends le chantier de Flamanville. Quand je visite une centrale, je prends un air concentré, mais au bout de 2 minutes, je suis largué.
Voilà, vous le faites bien, Nicolas Sarkozy, vous le tenez, hein, David. Des sujets plus légers dans les magazines à lire ce week-end, là.
Ben, c'est pas sûr. À la une du Figaro Magazine, Éric Zemmour annonce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Bonne feuille de l'essai où il se raconte en campagne avec un passage assez savoureux. Coup de téléphone de Zemmour à un interlocuteur mystère. C'est toi ? Qui ça, toi ? Attends, parle pas ici. Appelle-moi sur cet autre numéro sur Telegram. La messagerie sécurisée. Ainsi commence l'échange entre Mélenchon et Zemmour, qui se fait ici plus journaliste que politique, au moment où il prépare son débat avec Mélenchon dans la pré-campagne. Zemmour qui a décidé de balancer les offs de sa propre campagne. Dans l'Obs, Nathalie Baye, signataire du manifeste des 109, appelle Emmanuel Macron à réformer la loi sur la fin de vie et raconte l'agonie de sa mère à la salpêtrière et la crise de nerfs qu'elle a fait devant les médecins pour que les souffrances de sa maman soient abrégées. Le lendemain, sa mère partait. À lire également dans Match l'interview de Madame Tapie qui raconte dans un livre sa vie avec Nanar. 642 millions de dettes, aucun revenu, mais le soutien des enfants et de Jean-Louis Borloo qui l'aide à se loger. Et cette confidence, même sous morphine, condamnée par le cancer, Bernard Tapie restait un mari jaloux. À 2h du matin, en pleine nuit, il lance au médecin à son chevet « Qu'est-ce que tu fous là, toi ? J'ai bien vu que tu tournes autour de ma femme. »
Vous le faites bien aussi, Bernard Tapie. Vous allez faire un numéro d'ici peu de temps.
Mais non, mais il faut les faire vivre, ces grands comédiens. Enfin, dans Match, toujours, encore un comédien. Jean Dujardin interviewe Fleuve, où l'acteur qui joue le rôle de Sylvain Tesson au cinéma dans Les Chemins Noirs se raconte. Match lui demande de quoi pourrait-il se plaindre, lui qui a tout, et Dujardin répond « J'ai du mal à répondre ». Dujardin réfléchit, une plainte quand même. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale après 2 ans de Covid, on croyait qu'on allait sortir de là plus fort, avec un regard neuf. Mais non, c'est pire. Il y a pourtant des gens intelligents, mais qui passent leur temps à s'engueuler et s'insulter. Qu'ils arrêtent l'invective et qu'ils passent à l'action. Plus qu'un acteur, Dujardin se fait ici l'interprète sans doute préféré des Français.
Oui, effectivement, David Abiker, la revue de presse, comme tous les jours. Merci David, vous avez parlé de l'Assemblée. Eh bien, nous y allons de ce pas dans Esprit Libre. Et c'est dans un instant avec deux bretteurs de Finlande du journalisme politique. J'ai nommé Jean-Marie Colombani et Bruno Jeudy. À tout de suite.